l'école buissonnière de Radio Campus Paris, pour continuer d'apprendre pendant le confinement sans sortir de chez vous.
Bientôt 4 semaines que nous sommes confinés et, comme probablement pour vous toutes et tous, le plafond me tombe un peu sur la tête, comme on dit de l'autre côté du Rhin. Mais ne vous inquiétez pas, ceci ne sera pas un énième journal intime du confinement. Par contre, depuis mon petit appartement bobo montreuil, j'ai actuellement pas mal de temps de réfléchir sur les fameuses différences franco-allemandes en temps de Covid-19. Et comme je vis ce confinement avec un homme qui adore, ah que dis-je, qui aime passionnément le foot, je souffre. Oui, je souffre, car faute de match de foot et à défaut du championnat européen, il souffre et je souffre avec lui. Imaginons alors cette revue de presse franco-allemande en version de match de foot entre la France et l'Allemagne, car chez nos voisins, les choses ne se passent pas tout à fait comme ici. Comme vous le savez, c'est en Chine, en décembre 2019, que tout a commencé, et c'est alors depuis janvier que le ballon se trouve dans le camp européen avec un premier cas en France, qui date du 25 janvier. L'Allemagne suit 3 jours plus tard et déclare une première personne infectée le 28 janvier. Nombreux sont ceux et celles qui sous-estiment encore le virus à ce moment-là. On va dire qu'Emmanuel Macron se trouve au tout début dans notre petite équipe imaginaire en position du gardien. Lui aussi ne se prenait pas trop la tête. Les médias comme PFM TV titraient même en mars encore « Emmanuel et Brigitte Macron au théâtre pour inciter les Français à sortir malgré le coronavirus ». On veut rassurer, montrer que même face à une maladie, nous sommes invincibles. Eh ben non. Quelques jours plus tard, surprise, Macron quitte le but, cède sa position à Édouard Philippe et devient attaquant. Son discours change. Le 17 mars, il prononce un laïus qui crée polémique. « On est en guerre », répétait-il 6 fois. En novembre déjà, la correspondante Nadia Pantel écrivait dans un article de la Süddeutsche Zeitung « Macron se comporte comme l'héritier d'un empire ». On lui reproche alors la même chose après son discours du 17 mars. Même, ou surtout en temps de crise, il n'arrive pas à faire autrement. Il attaque, il a besoin de prouver sa force. Mais Mutti, la maman, comme on surnomme Angela Merkel tendrement en Allemagne, riposte. 2 jours après Macron, elle ne prononce dans son discours à la nation ni les mots guerre, ni confinement. Trop de risques d'allusion avec l'histoire allemande. Elle mise, toujours de manière très sobre, sur le sens de la responsabilité et la fameuse discipline allemande. Brune-Antoine, journaliste française à Berlin, commente plus tard dans son journal du confinement My Funny Quarantine que son discours aurait eu l'effet d'un cachet de Lexomil. Alors que je cite, écoutez le président Macron, surnom qu'elle donne à Macron, ressemblait plutôt à une autoroute de coke. Mutti, elle, veut vraiment rassurer. Elle joue safe alors que Macron fonce. Pas de but en notre match pour l'instant. L'équipe allemande est à la traîne. Comme tout y arrive en mode copier-coller sur la France, les mesures arrivent avec 2 jours de retard. Merkel passe alors le ballon à Markus Söder, président de la Bavière et premier à prononcer un confinement pour son land. Il s'agit de décider pour la vie ou la mort, dit-il de manière très grave dans une conférence de presse, rapportée entre autres par la chaîne de télévision ZDF. Surnommé le Trump de la Bavière, il s'est fait critiquer par les uns pour son autorité et applaudir par les autres pour sa gouvernance. L'équipe allemande n'est pas unie. Il y a alors match dans le match, car fédéralisme oblige, les consignes diffèrent selon les régions. Quand la Bavière décide par exemple son confinement, la région de Hesse permet encore à des élèves d'écrire leur bac. Ils se souhaitent bonne chance et se prennent dans les bras, titrait le Spiegel à ce sujet le 23 mars. En Mecklembourg-Poméranie, la police interpelle désormais des voitures d'autres régions. En Bavière et en Saxe, les gens n'ont plus le droit de s'asseoir sur les bancs, alors qu'à Berlin, sortir de la ville et faire un pique-nique près d'un de nombreux lacs autour de la capitale n'est pas interdit. Le temps que les gens respectent la distance sociale de 2 mètres. Mais revenons à notre match France-Allemagne. Car qu'est-ce qui se passe? L'équipe française semble en désaccord. En position d'ailier droit, arrive l'infectologue Didier Raoul, qui fait un gros croche-pied à Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé. Raoul est surtout connu et contesté aujourd'hui pour vanter l'hydroxychloroquine comme médicament contre le Covid-19. Plusieurs scientifiques rapportent néanmoins, selon Europe 1, que la chloroquine n'est pas admise par la communauté scientifique comme remède contre le coronavirus. Christian Drosten, médecin et infectologue allemand, très médiatisé et surnommé tendrement vice-chancelier pour son rôle en tant que conseiller, est très sceptique face à la chloroquine. Selon lui, je cite, « les études provenant de la France ont surtout laissé des points d'interrogation ». Et des théories de conspiration pharmaceutique d'ailleurs. Raoul et Buzyn boudent désormais le jeu sur le banc parmi les remplaçants. Vous l'avez remarqué, hein, toujours pas de but, mais beaucoup de polémiques. Même pas encore passé la mi-temps, le public vit un choc. L'équipe allemande se retrouve affaiblie. Mutti a dû quitter le terrain. Le 22 mars, le journal allemand Die Welt annonce que la chancelière devait aller en quarantaine. Elle a été en contact avec un médecin infecté par le coronavirus. Soulagement peu après. Tous les tests ont été négatifs, rapportent plusieurs journaux le 31 mars. Angela reste néanmoins en quarantaine et revient seulement le 3 avril. Mouti Espeg, on va y arriver. Après le désaccord dans l'équipe française, c'est finalement Jens Spahn, ministre de Santé en position de défense, dans l'équipe allemande, qui se précipite, prend le ballon et se dirige vite vers le but. Trop vite, peut-être. Après le PQ, maintenant les masques. Comme en France, la pénurie de matériel est un grand sujet, surtout après les déclarations du ministre de Santé, qui disait encore fin mars, selon Die Welt, à quel point les hôpitaux allemands étaient bien équipés. Une question a néanmoins suscité beaucoup d'intérêt. Pourquoi en Allemagne la létalité est si basse? C'est l'âge des personnes infectées, les tests, ou est-ce simplement de la chance? L'Allemagne joue en 4-4-2 et mise sur la défense. Nous n'avons pas d'explication, c'est probablement une combinaison de différents facteurs, expliquait alors il y a peu Richard Peabody de l'OMS. Beaucoup de tests, selon Christian Drosten, dans aucun pays européen autant de tests auraient été réalisés qu'en Allemagne. Et l'équipement, car l'Allemagne dispose de bien plus de lits pour les soins intensifs avec machines respiratoires. 40 000 actuellement, contre 7 000 en France, selon le Spiegel. Le ballon reste dans le camp allemand. Alors qu'Emmanuel Macron tweet le 24 mars que la solidarité européenne sauve des vies, l'Allemagne accueille des personnes infectées de l'Italie, de l'Espagne et de la France, tant qu'il y a de la capacité dans les hôpitaux. Markus Söder, président de la Bavière, répète encore le 4 avril « Nous allons accueillir des patients de Paris. L'Europe doit se serrer les coudes. » L'équipe allemande se rapproche dangereusement du but français. Alors que Jens Spahn, ministre de la Santé, fait une erreur et perd le ballon. Mais quel dommage! Sa proposition d'utiliser des données téléphoniques pour identifier des gens ayant eu contact avec Corona crée une nouvelle polémique. L'équipe française est donc de nouveau en possession du ballon. Sibeth Ndiaye, secrétaire d'État française, fonce vers le but allemand, mais semble indécise. Est-ce utile de porter des masques pour se protéger? Faut-il vraiment prendre le virus au sérieux? Ou encore, envoyer les profs dans les champs pour récolter les fraises? Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle court trop vite et tombe. Ouf, ça a l'air méchant. Elle va devoir quitter le terrain. C'est boulette sur boulette, titre le magazine Gala à son sujet. Par manque de soutien dans son propre équipe, les Allemands profitent de la situation et reprennent possession du ballon. Cette fois-ci, c'est Olaf Scholz, ministre de la Finance, qui se précipite avec Peter Altmaier, ministre de l'Économie. Avec des crédits à hauteur de plus de 100 milliards d'euros, l'Allemagne essaie de sauver son économie et d'aider les entreprises, petites comme grandes. Même toutes ces entreprises unipersonnelles peuvent maintenant prétendre à ce qu'on appelle un Corona-Zuschuss, une aide financière pour les professionnels en temps de Corona, qui peut s'élever jusqu'à 9 000 euros pour 3 mois. Pour les plus précaires, à réécouter d'ailleurs dans le podcast Die Lage der Nation, un règlement a été mis en place pour permettre aux particuliers à suspendre le paiement du loyer sans craindre une résiliation du bail. Si en France des mesures sont prises également pour soulager certaines petites entreprises de leurs loyers commerciaux et professionnels, rien, à cet instant, n'est envisagé pour les loyers d'habitation. Bon, je vais m'arrêter là, car cela risque de devenir un match bien plus long que prévu. Et bien évidemment, la question n'est pas si l'Allemagne gère mieux que la France ou vice-versa, comme trop souvent évoqué quand on parle des relations franco-allemandes. Et vous l'avez bien compris, cette crise est loin d'être un jeu, et nous ne sommes pas en guerre. De nouvelles mesures surgissent tous les jours, et les réflexions sur l'après-confinement se multiplient. Nous faisons tout ce que nous pouvons, à petite ou grande échelle, car pour une fois, on est tous dans le même bateau.